en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La temporalité en informatique musicale, de la composition à la performance, c'est le titre de la conférence d'Archia Kunt, chercheur chargé de coordination entre la recherche scientifique et la création artistique à l'IRCAM. Nous vous proposons d'écouter son intervention dans quelques instants. Au travers de plus de 10 siècles d'évolution, l'écriture musicale est devenue un moyen riche d'abstraction du temps et de transcription de la pensée. La particularité qui intéresse ici Archia Kunt, c'est la puissance d'abstraction de l'écriture musicale pour décrire des processus complexes, parallèles, hiérarchiques et multi-horloges en temps de composition. En informatique, cette projection de la pensée par le biais d'une écriture est un défi majeur de la conception des langages informatiques temps réel. C'est ce que nous dit Archia Kunt. Écoutez son intervention lors du Festival Agora de l'IRCAM, Institut de recherche en création acoustique musique. C'était en juin 2010.
J'espère, à la fin de cet exposé, vous montrer que l'écriture musicale, la notation musicale et la pensée musicale surtout qui est transcrite en écriture musicale comme des notations pour influencer l'informatique et inversement. Et aujourd'hui, on est à l'IRCAM dans une situation où il y a un échange mutuel entre les deux hémisphères. Alors, pour commencer, on va pendant un certain temps parler que de la musique. Donc, on va revenir sur la genèse d'écriture musicale. Je pense que la plupart des gens ici, ils savent un peu lire la musique. Donc, je vais montrer un point de vue très, très naïf, un point de vue informatique, disons naïf, d'écriture musicale. Alors, qu'est-ce que c'est une partition de musique? Il s'agit de quelque chose écrite qui existe mentalement en deux temps, dans le temps de composition et dans le temps de performance, interprétation. Alors, regardons le premier aspect, composition. Il s'agit d'un certain nombre de symboles qui sont des notes. Par exemple, ici, on voit une partition de Bach, le partita numéro 3 pour violon. Il s'agit d'un certain nombre de symboles qui impliquent, en fait, certaines instructions, certaines actions pour instrumentiste. Alors, ces instructions, ils ne donnent pas toute l'information pour quelqu'un qui va l'exécuter. Donc, il faut avoir une certaine culture musicale pour exécuter ces instructions, disons, au niveau. Et possiblement, il y a de la concurrence, ça veut dire de la polyphonie, qu'on ne voit pas ici. Alors, écrire ces symboles dans un processus de composition, c'est équivalent à organiser ces matériaux dans le temps. Alors, on est en fait dans une sorte de sémantique abstraite des actions. Alors, ça c'est très simple. Revenons dans le deuxième temps mental, qui est le temps de performance. Donc, il s'agit, de point de vue informatique, encore une fois naïf, d'une évaluation de ce type d'instruction vers des actions, disons, bas niveau, qui peuvent être des actions physiques de l'instrumentiste, par exemple des instructions qui deviennent des gestes instrumentistes, etc. Donc, qui sont normalement codés. Ils sont codés de manière dure dans le geste musicien, mais ils sont assez flexibles. Donc, pour vous donner un exemple de cette partition-là, je vais vous jouer une petite vidéo où on a installé en fait des capteurs sur le corps d'un violoniste qui joue la même partition. Rien de particulier, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a, quand on parle de la musique pure, on ne sent pas en fait un gap sémantique fort entre l'aspect compositionnel et l'aspect performatif de la musique. Tandis qu'en informatique, on a un grand problème pour lier ces deux aspects ensemble. La solution pour ça, c'est d'aller étudier en fait ce phénomène qui est la musique, en utilisant les concepts qui ont été inventés par des gens comme Gérard, ce qui est la programmation synchrone étant réelle. Alors, avant d'arriver là, il faut quand même étudier un peu la notion du temps dans la musique. Donc, encore une fois, je vais être assez naïf. Je vais montrer, en fait, les différents aspects du temps en musique. Alors, ce que je vais vous montrer va vous paraître assez simple. Mais il faut savoir que pour les ingénieurs comme moi, le temps, c'est toujours très problématique. On essaie toujours de faire une abstraction très naïve et très simpliste du temps, ce qui est très difficile quand on travaille avec les compositeurs. Donc, premier aspect du temps, en musique, c'est la fluidité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plus concrètement, on a une petite partition, encore une fois, de Bach. Je vais simplement vous jouer. On va tout d'abord écouter l'interprétation de cette partition par Glenn Gould. Entendez quelqu'un qui chante, c'est Glenn Gould, hein, il est connu pour ça. On entend une deuxième interprétation, cette fois-ci, c'est Sviatoslav Richter. La première, il fait 26 secondes. La deuxième, il fait 50 secondes. Alors, ce qui est amusant ici, c'est qu'on a les mêmes instructions. On a deux interprétations complètement différentes. Bon, vous allez me dire que c'est ça la musique. Très bien, mais de point de vue informatique, il se passe quelque chose d'assez amusant. Déjà, pour commencer, Bach, il n'a pas indiqué le tempo dans la partition. Ça veut dire qu'il y a une notion complètement relative du temps qu'il faut, si on veut ramener cette richesse sémantique vers l'informatique, il faut le considérer. Donc, on est en fait tout de suite dans deux temps opposés, qui est le temps logique compositionnel contre le temps de performance ou le temps réel. Ce qui est intéressant ici, est-ce que pour les musiciens, il n'y a aucun gap sémantique entre ces deux temps. Ils ne font aucun effort pour aller de l'un vers l'autre. Alors pour combler l'affaire, on va écouter encore une autre interprétation. Bon, vous avez eu l'idée. Encore quelque chose d'amusant, Bach, il n'a pas indiqué l'instrumentation pour ses pièces. Donc, c'est des pièces, en fait, on peut dire complètement relatives. Donc, ça, c'est Kenneth Gilbert qui a interprété cette pièce. Alors, ça nous ramène à un deuxième aspect qui est très important, ce qui est la relativité même des actions. Ça veut dire que là, on a vu tout à l'heure la geste violoniste qui jouait l'œuvre. Bon, quand on change d'instrument, il y a même cette geste, ces instructions bas niveau qui changent, qui basculent complètement. Alors là, c'est un exemple très évident. Pour aller un peu très loin, cette relativité existe dans toutes ses formes en musique. Donc là, on a un cas un peu extrême, qui est le clavier Stück 11 de Stockhausen, où la pièce peut durer 30 secondes ou 10 ou 12 minutes, si je ne me trompe pas. Il s'agit d'un ensemble des cellules musicaux, en fait, avec certaines règles que le pianiste, en temps réel, si vous voulez, il choisit, il interprète l'œuvre. Donc là, on est dans une sorte de relativité, disons, absolue. Et encore une fois, il n'y a pas un gap sémantique entre les actions transcrites, la pensée musicale, et son passage vers la performance. Troisième aspect, imaginez une partition comme ça, donc on a des ensembles des actions cette fois-ci qui sont écrits en parallèle. Donc encore une fois, quand il s'agit d'un quator par exemple, on voit un seul résultat, on a quatre machines avec quatre instructions en parallèle, mais ils doivent être synchrones, mais en même temps on doit garder cette fluidité temporelle et même la fluidité d'action, relativité d'action. Donc quand il s'agit des quatre musiciens, normalement ils jouent ensemble. S'il s'agit de symphonie de Mille de Mahler, il y a normalement un chef d'orchestre. Alors c'est très important, on va passer très vite là-dessus. Il y a deux aspects en fait ici. Cet parallélisme synchrone, c'est la clé de lier en fait le temps de composition au temps de performance. Et on va revenir là-dessus. Le quatrième aspect de musique, qui qui est peut-être le plus problématique pour les informaticiens, c'est les différentes notions du temps qui coexistent en musique. Donc c'est le temps hétérogène. Donc il y en a beaucoup du temps différent. Les plus connus sont le temps strié, ça veut dire un temps, disons, discrétisé, mais toujours relatif, toujours fluide, basé sur la pulsation. C'est le temps que vous connaissez tous, parce qu'on entend tout le temps en radio, même en supermarché, malheureusement. Donc, par exemple, là, on a un petit extrait de première sonate de Boulez. Bon, ce n'est pas en musique rythmique, mais c'est un temps strié. Ça veut dire qu'on a des valeurs relatives, on a une sorte de tempo ou vitesse relatif, et il y a un rythme qui est composé avec. On a aussi une notion du temps continu. Un temps continu, c'est un temps continu. Ça veut dire que ce n'est pas basé sur un métrique du temps pulsé. Donc là, ici à droite, on a le fameux Trénodi pour les victimes de Hiroshima de Penderecki. C'est une musique très fluide et très continue. À gauche, on a une partition de Ligeti pour une pièce qui s'appelle Volumina pour orgue. Et ça, c'est un peu un cas extrême où on voit ce temps continu et à la fois une sorte de partition qui implique des actions relatives. On a aussi des événements qui sont, normalement, les événements musicaux sont dans le temps, mais il y a aussi des événements qui sont hors temps. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les événements hors temps, c'est des événements qui se passent, mais musicalement, ils occupent un temps nul. Donc, un exemple très simple de ça, c'est même dans les partitions classiques, c'est les appoggiatures. Les appoggiatures, c'est des événements qui se passent, qu'on va entendre, mais logiquement, en fait, ils occupent un temps nul. Donc ici, par exemple, on a deux appoggiatures qui ont, en principe, un temps nul. Ça veut dire que l'interprète, elle est libre de les jouer, mais on ne va pas les compter. Ça, c'est des exemples un peu extrêmes, disons, mais ces notions du temps, si vous voulez, le problème pour nous, les informaticiens, est-ce qu'ils peuvent très bien coexister dans n'importe quelle partition musicale, classique ou contemporain. Peut-être un exemple assez bel de ça, c'est Inori de Karlheinz Stockhausen pour un ou deux solistes et orchestres, encore une fois, une partition qui est relative en action, où on voit dans la partition qu'on a du temps pulsé, on a des actions en temps continu, on peut avoir des événements qui sont hors temps, ici, etc., etc. Jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de la musique, on n'a pas parlé d'informatique musicale. Bon, alors, qu'est-ce que c'est informatique musicale? On oublie tout ce que j'ai dit. Encore une fois, en vision très naïf, informatique musicale, c'est on a soit un ordinateur qui a une certaine instruction dans sa tête, écrit par un compositeur, et qui va les jouer, ça c'est musique électronique pure, ou on veut en fait que l'ordinateur, il joue avec un ensemble, mais toujours à partir d'une écriture. Donc, bien sûr, dans le deuxième cas, il doit être capable d'écouter les autres instrumentistes et avoir une sorte de comportement comme si c'est un musicien intelligent qui synchronise, etc., etc., et qui fait une interprétation. Et toujours interprétation des instructions écrites par le compositeur. Donc maintenant, on va revenir sur tout ce qu'on a dit. Le grand défi, si vous voulez, pour informatique musicale aujourd'hui, ce n'est pas comment produire des sons, c'est comment organiser le son dans le temps. Dans ce cas spécifique, ce n'est même pas le son en fait, qu'on veut organiser, c'est le programme. Donc on va revenir sur les deux aspects compositionnels et performatifs. De point de vue compositionnel, le problème ici, est-ce que si en musique classique, disons, on a un certain sémantique d'action dure, ça veut dire la geste violoniste qui produit une note. Ici, on a une sémantique complètement infinie. Donc, il faut trouver des nouveaux moyens de production du son. Très bêtement, en fait, on peut dire que la note, entre guillemets, ou cette entité, en fait, qu'on utilise d'une manière ou autre, il devient simplement un programme. Donc, il va être remplacé par un programme qui occupe un certain temps. Et ce temps, il peut avoir des notions différentes, comme on vient de voir. Donc chaque compositeur, si vous voulez, il définit son propre vocabulaire. Alors, en informatique, bien entendu, on n'a pas les contraintes temporelles sur les actions physiques. Donc je ne peux pas demander à un violoniste de jouer un trémolo avec une fréquence de 1000 Hz, parce qu'on a un certain limite physique, mais je peux demander à un ordinateur de le faire. Donc, ça implique aussi des nouvelles manières en fait, de raisonner et organiser ces actions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'IRCAM, qui s'appelle composition assistée par ordinateur. C'est au temps de composition, en aide au compositeur, de raisonner et organiser des matériels. Et on va avoir, bien entendu, des nouvelles manières d'organiser le temps. Alors, le défi ici, c'est de ramener toutes les abstractions temporelles qu'on a vues, qui sont notre patrimoine musical, si vous voulez, dans un langage musical qui permet à la fois au compositeur de faire l'abstraction des événements musicaux pour les décrire sans trop d'efforts. Ça veut dire que le plus vite possible, transcrire sa pensée, et aussi que cette manière d'écrire les événements en informatique musicale ne fasse pas à distance avec le temps de performance. Alors ça, en soi, c'est un défi assez intéressant pour informatique. Bien sûr, c'était toujours un défi pour informatique musicale. Alors peut-être une pièce très importante et phare de ce type de mélange, c'est Contact de Stockhausen, qui étudie en fait la relation entre électronique et un musicien, non seulement de point de vue performatif, mais aussi compositionnel. Et un article très très amusant à lire de cette période de Stockhausen, c'est un article qui s'appelle « Comment le temps passe ». Et je pense que c'est un article qui est aussi intéressant pour les informaticiens. Alors, on va revenir maintenant sur l'aspect performatif. Alors, qu'est-ce que c'est encore une fois la performance? C'est une évaluation temps réel de ces instructions. Donc, avant, les instructions, c'était des notes, des instructions au niveau. Maintenant, ces instructions vont devenir des programmes. Et pour avoir une performance musicale, ou disons musicalement parlant, il faut que ces évaluations soient synchrones et concurrentes, comme en analogie avec une partition, disons, classique. Mais classique, pas dans le sens du tradition d'écriture, mais dans le sens d'organisation du temps. Alors ça, c'est aussi un autre extrait de Contact pour piano et électronique de Stockhausen. Alors aujourd'hui, en informatique musicale, il y a un grand problème pour lier ces deux aspects compositionnels et performatifs. On pense que la solution, en fait, pour ce défi, c'est de ramener les concepts toujours utilisés implicitement ou explicitement en écriture musicale vers un langage informatique synchrone. Pourquoi synchrone ? Parce que c'est le parallélisme synchrone et concurrent qui va lier justement les deux aspects compositionnels et performatifs. Alors, ça c'est pour vous donner un peu le contexte de ce travail. Alors, quels sont les paradigmes scientifiques ? Si l'ordinateur il doit écouter ce qu'ils font les musiciens en temps réel, on n'est pas juste dans l'exécution des programmes. Donc ça, c'est la partie vraiment écoute. C'est une ligne de recherche qu'on appelle traditionnellement suivi de partition. Ça veut dire simplement un ordinateur qui écoute en temps réel les musiciens. Il essaie de se synchroniser à partir d'une partition qu'il a dans sa tête. Donc ça veut dire que concrètement, on a un pianiste qui joue. On veut en fait savoir sur le son continu quelles sont les correspondances entre ces signaux et le symbole qui les décrit. Donc, alors le problème, c'est un problème d'apprentissage automatique, intelligence artificielle, etc., etc. Mais en temps réel, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'effectivement, pour faire une interprétation musicale, on veut que le temps de synchronisation soit nul. On va voir comment on peut approcher le temps nul, même si ça n'existe pas. La deuxième aspect, bien entendu, c'est de coupler en fait ce paradigme d'écoute artificielle avec la programmation réactive et synchrone. Donc, tout simplement, quand on est capable de synchroniser avec des musiciens, un compositeur, il compose ou il programme. L'acte de performance, c'est l'évaluation temps réel et synchrone de cette partition. Donc là, je vais vous montrer un extrait de le tout début de Anthème 2 de Pierre Boulez pour violon et électronique en temps réel. Donc d'abord, on va entendre la partie violon sans électronique, et après, on va entendre le violon avec l'électronique en temps réel. Donc la partition ici, on voit la partie violon, c'est très court, et en parallèle, en fait, on a des petits programmes ici, écrits par une notation, disons, traditionnelle, mais avec plein de paramètres qu'on ne peut pas lire en dessous, qui doivent être interprétés en temps réel malgré toutes les variations de la performance. Et maintenant avec électronique, synchrone. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, concrètement? On est en train de suivre l'instrumentiste en temps réel, non seulement dans sa position, mais aussi sa temporalité. Alors, la position, c'est un variable discret, tandis que la vitesse de la performance, c'est un variable continu. Ça veut dire que ce n'est pas un entier, c'est un chiffre qui peut varier de 0 à, je ne sais pas, un nombre flottant. Alors, ceci nous ramène en fait au système qu'on a développé à l'IRCAM, qui est en fait un couplage de ces deux paradigmes. D'une part, une machine d'écoute et alignement en temps réel, et d'autre part, un langage synchrone et réactif. Donc c'est un système qu'on appelle antescopho, on va voir pourquoi. Donc il est fortement inspiré par Esterel et Lustre. L'analogie musicale de ce langage, c'est très simple. On a une partition comme celle-ci, qui va devenir quelque chose comme celle-ci. Donc on a une partie entièrement instrumentale que le système va écouter en temps réel et quand il sait qu'il est au bon endroit, il va lancer des programmes synchrones et parallèles. Donc ces programmes synchrones et parallèles, pour les décrire, il faut qu'on soit capable de les décrire avec toutes ces différentes notions du temps que je vous ai montrées tout à l'heure. Et c'est le cas. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce dilemme du temps hétérogène en musique? Donc, il faut simplement regarder comment les compositeurs décrivent ce temps-là. Alors, on a trois temps, si on les regarde de point de vue informatique. On a un temps discret, qui peut être en abstraction du temps continu, si le temps continu existe. On a un temps continu qui est en abstraction du temps logique, ce qui est par exemple le temps décrit par le tempo. On a un temps logique qui est en abstraction du temps discret. Ça veut dire que le tempo, il existe quand il y a des notes qui arrivent. Là, on est dans une sorte de tautologie qui est bien décrite ici. On a du temps discret par Tn, Tn plus 1, etc. On a aussi un temps logique qui est comme un oscillateur qui tourne. C'est comme une horloge qui va plus vite ou qui ralentit, etc., etc. Alors la solution de ça, c'est dans la cognition musicale. C'est dans comment, en fait, les musiciens eux-mêmes, ils se synchronisent entre eux. Donc, je vais ajouter un troisième élément au dessin que Gérard a montré, une troisième vibration, disons, qui est le phénomène d'attente musicale. Souvent, par exemple, dans un quatuor, bien entendu, les gens, ils se regardent, mais très souvent, en fait, les musiciens, ils sont capables d'anticiper le temps d'arrivée des prochains événements. Évidemment, la synchronisation finale, c'est un mélange de toutes ces différentes vibrations. Pour s'approcher à ce temps nul, il faut que l'ordinateur soit capable d'anticiper le futur avant que ça arrive. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, avec cette abstraction, la programmation devient la composition. Si on arrive à donner au compositeur les sémantiques qu'il utilise et qui ne sont pas très étranges ou étrangers pour lui, la performance devient l'évaluation temps réel de ces programmes. Alors, donc, la partition devient un programme. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Concrètement, ça veut dire que... Bon, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on va mettre dans ces programmes. Donc, on a vu tout à l'heure... que quand un violoniste joue, en fait, il est en train d'interpréter des instructions qui sont assez haut niveau. On n'écrit pas forcément tous les gestes qu'il doit entretenir pendant la performance. Donc ici, on est dans un phénomène pareil. On a une interface graphique qui est comme une sorte d'instrumentarium. Ça veut dire que les compositeurs, ils composent leurs instruments qui sont normalement hors temps. Nous, avec ce langage, on permet d'organiser en fait ces instruments-là dans le temps. Alors, concrètement, ce langage, c'est un langage orienté acteur, dont chaque component, en fait, qu'on appelle un acteur, il est exécuté, il communique avec des autres acteurs. Donc, encore plus concrètement, quand on a une partition comme ça, on a des automates. La partition instrumentale est représentée comme un automate. Les parties synchrones sont aussi représentés comme des automates qui peuvent communiquer entre eux. Alors, il y a un petit truc qui est très important ici. Si les événements sont dans le temps et aussi écrits par un temps fluide ou relatif, il y a toujours la vitesse de musiciens ou des musiciens qui sont envoyés à tout le monde pour qu'ils puissent se synchroniser. Et évidemment aussi la position dans la partition. Alors, comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple de Abro de Gérard, avoir des automates comme ça, des fois, ça peut compliquer la vie. Donc, on a aussi des abstractions hiérarchiques. Ça veut dire qu'il faut voir, par exemple, chaque boîte ici comme une ligne musicale, si vous voulez. Donc ces acteurs, ils peuvent avoir des constructions hiérarchiques. Alors ce qui est étonnant, si vous voulez, parce que bon, pour les informaticiens, ça fait sens, c'est ce que quand on montre un structure comme ça à un compositeur, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire que si on leur dit, écoute, tu vas écrire des choses concurrentes, il ne faut juste pas utiliser le mot concurrent, on dit polyphonique. Tout de suite, ils vont se mettre à écrire des choses très, très compliquées qui dépassent notre imagination. Si on leur dit que maintenant, vous pouvez décrire des temps différents à l'intérieur de chaque module d'une manière hiérarchique, ça fait complètement du sens. C'est ce qu'ils font déjà sur les partitions orchestre et dans les processus de pré-composition. Alors, je veux montrer maintenant quelques exemples. On a l'exemple de Otemo pour vibraphone électronique en temps réel par Vassos Nicolaou qui a été joué en Festival Agora l'année dernière. Alors, j'ai fait exprès pour montrer cet exemple, parce que comme vous voyez, si vous arrivez à suivre, le système, il se trompe. C'est là où il faut savoir que le but scientifique d'un système comme ça, c'est très différent que le but musical. Le but musical, c'est ce qu'on a un ensemble synchrone et qui correspond aux partitions écrites sur papier, qu'on entend sans problème, qu'il n'y a aucun bug ou crash, mais c'est surtout cette finalité musicale qui est importante. La finalité scientifique, si vous voulez, quand je publie des papiers, bien sûr, je vous montrerai que la précision, c'est presque 100% qu'on ne peut jamais arriver. Mais donc ça montre aussi que le système de reconnaissance, il doit être tolérant, mais s'il n'est pas assez intelligent, ce qui peut arriver, parce qu'on est dans une sorte de déterminisme, mais indéterminé, si vous voulez, à cause de toutes les variations de performance, il faut que le résultat musical soit cohérent avec ce qui est écrit. Donc ça, c'est vraiment la partie synchrone, en fait, qui vient à notre aide. Je vais montrer un autre exemple, donc, qui est un extrait de 3 mesures de la pièce His Suisse pour violon et électronique de chambre de Marco Stropa. C'est un compositeur qui était derrière la première version du système qu'on a développé. La raison pour laquelle je vous montre cet exemple-là, c'est qu'ici, Stropa, d'une manière complètement musicale, avec des intuitions complètement musicales, est en train de composer des structures hiérarchiques. Alors c'est très simple. Ici, on voit en fait une sorte de visualisation des processus que vous allez entendre tout à l'heure. Chaque boîte ici, bon, il faut considérer l'axe X comme le temps relatif. Chaque boîte, chaque grande boîte, en fait, c'est un enveloppement en fait, d'un événement haut niveau. Et à l'intérieur, on a des événements périodiques en fait, qui se passent en parallèle. Et chaque boîte correspond à un son qu'on va entendre. Donc, on a des structures hiérarchiques, on a des processus musicaux dynamiques qui se passent dans le temps, on a du concurrence, il faut avoir de la synchronicité, ils sont parallèles. Alors, le son qui va générer toute cette partition-là, c'est un son en fait, qu'on va capturer en temps réel par le violon qui correspond à ça. Et c'est tout. Donc ça, c'est notre élément de base. Donc ici, si vous voulez, vous allez entendre 4 voix différentes. Chaque boîtier ici, en fait, est responsable. On a en gros 8 boîtiers. Je pense qu'on ne peut pas voir tout le monde ici, parce qu'on n'avait pas de place. Il y a un boîtier qui gère la hauteur, il y a l'autre qui gère le rythme. Thank you. Donc, ils finissent par une sorte de trémolo artificiel. Alors, pourquoi je vous montre cet exemple-là? Bien entendu, ce résultat que vous entendez, c'est une interprétation de cette partition qui est là. Cette partition, même si graphiquement il est assez complexe, ça s'inscrit sur les mêmes lignes de pensée que les compositeurs utilisent depuis des siècles, mais sauf qu'ici, on n'a pas des notes, on a des processus informatiques avec des notions du temps différents, hétérogènes. Donc, concevoir un langage, c'est aussi égal à écouter les gens et faire une synergie mutuelle, dans notre cas, entre l'art et la science. Alors, pour terminer, je dois dire que toute nécessité pour la naissance d'un langage est née à partir d'un besoin intellectuel et collectif. Ceci n'est pas un projet que j'ai mené toute seule. C'est un projet qui a profité de la richesse de l'écriture musicale et aussi de la faiblesse des moyens d'expressivité actuels en informatique. Et aussi la force intellectuelle des acteurs du domaine, qui sont des compositeurs, et qui demandent toujours à plus. Donc le futur pour nous, ça reste à maintenir en fait cette richesse d'échanges culturels entre ces deux différentes communautés. Toujours, à chaque pas, on voit qu'il y a des demandes complètement musicales en fait, qui coïncident avec des paradigmes en informatique qui existent, mais il faut qu'on s'approprie. Donc on est dans une démarche où on ne développe pas des paradigmes informatiques qui existent pour le donner au compositeur, mais on attend pour que la nécessité musicale arrive et qu'on voit comment on peut l'approprier. Juste pour donner un échantillon des choses qu'on va faire vers le futur, la partition graphique de Stropa que vous avez vue tout à l'heure, ça nécessite une sorte de vérification. Une sorte de vérification pendant l'acte de composition, parce qu'on a des processus parallèles, et il faut vérifier quand il fait des conditions entre, quand les processus ils communiquent entre eux, s'il va y avoir un blocage comme un blocage non causal ou pas. Donc c'est quelque chose qu'on a par exemple dans STRL. Il y a aussi une vérification pendant la performance. Et on voit que quand on donne ces moyens d'expressivité au compositeur, il touche les limites des systèmes temps réel qui existent. Donc on est aussi en train de voir avec nos partenaires comment en fait on peut rendre le temps nul qui n'est pas nul pour le traitement audio un peu plus efficace. Bien sûr, comme on est dans une sorte de démarche de conception orientée acteur, bientôt, on a déjà des demandes, les compositeurs vont nous dire « Bon, jusqu'à maintenant, j'utilisais des modules de production sonore qui existaient et qui sont standards. On va aller de plus en plus vers des modules plus inventifs qu'on peut programmer directement, etc. qui peuvent être, par exemple, un bout de hardware à côté et pas tous sur le même ordinateur. Et ça, ça va nous ramener vers une sorte de programmation embarquée, mais dans un environnement asynchrone. D'ailleurs, la musique, c'est ça, c'est un environnement asynchrone, mais avec un résultat synchrone, surtout quand on a plusieurs musiciens. Donc ça, c'est un peu les directions de futur pour notre travail. Finalement, si vous êtes intéressé par cette richesse musicale qui peut inspirer l'informatique, je vous conseille fortement les articles qui sont cités ici, qui parlent du temps musical. Merci beaucoup.
C'était Archia Kunt, chargée de coordination entre la recherche scientifique et la création artistique à l'IRCAM, Institut de recherche en création acoustique musique, une conférence sur la temporalité en informatique musicale qui avait lieu en juin 2010 dans le cadre du festival Agora de l'IRCAM. Restez à l'écoute de nos retransmissions en téléchargeant « La voix et l'éloquence dans la composition musicale » avec le sociologue Bruno Latour, le compositeur Philippe Leroux, le musicologue Nicolas Donin et la soprano Valérie Philippin, une conférence qui se déroulait également dans le cadre du festival Agora de l'IRCAM, enregistrée par l'IRCAM et proposée sur notre site canalacademy.com. Merci de votre écoute et à bientôt.